retrouvons sur Radio Grenouille 88.8 pour un voyage spatio-temporel au cœur de la recherche. De jeunes chercheurs, issus des disciplines variées de sciences humaines et sociales, vous amènent à travers le temps et l'espace pour vous faire découvrir leur champ, leurs questionnements et leurs intérêts. Au fil de ces épisodes, découvrez les parcours de nos archéologues, historiens, littérateurs, juristes, musicologues et photographes.
Épisode 3. Anaïs Martin. Le sang dans le son. On continue notre voyage spatio-temporel, on reste dans le monde anglophone, mais on voyage en Angleterre, le 19e siècle. Anaïs, doctorante en littérature britannique. Hello Anaïs.
Bonjour.
On va écouter un thème générique qu'elle nous présente.
Un extrait sonore très grandiloquent peut-être. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on vient d'entendre ?
Tout à fait. Donc en fait, c'est le thème musical de l'adaptation radiophonique de Dracula qui a été faite par France Culture en 2014, sous forme de concert fiction en fait. Donc c'est un format inédit développé par Radio France et qui propose une expérience radiophonique originale. Donc c'est une adaptation, une fiction qui est enregistrée devant un public avec tous les corps de métier radiophonique sur scène. Donc on a l'Orchestre National de France, on a des comédiens qui viennent jouer la fiction et des bruiteurs qui viennent donner du relief sonore à cette adaptation.
Dracula, un personnage connu de tous, peut-être moins dans cette nouvelle version, en tout cas pour moi. Cliché de Dracula, on en voit partout, on tape sur internet Dracula, toutes ces images apparaissent.
Quelles images ça vous évoque, Dracula ?
Noir, des dents, du sang.
Un vampire.
C'est bien parti.
Je ne voudrais pas trop me réveiller le soir avec, mais.
Oui, je trouve que la musique, justement, ça peut rejoindre une image que l'on pourrait avoir de Dracula, le côté très noble. Enfin, moi, j'ai l'idée du manoir qui me vient à l'esprit. Donc, j'imagine bien cette musique avec l'image d'un manoir et un orage au-dessus du manoir. Enfin, un truc très sombre.
Mais j'aime beaucoup les clichés, les images attendues qu'on a. Et je vous propose un extrait pour voir comment, justement, ces images sont retranscrites de façon sonore, en fait.
Vous entendez ? Ce sont les enfants de la nuit. Un chasseur est touché par cette musique. Vous ne chassez pas, monsieur Harker ?
Je crois qu'il vaut mieux que je regagne ma chambre.
Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez, par exemple ? Est-ce que pour vous, ça retranscrit bien cette idée de Dracula ?
Au niveau de la voix, oui, il y a un petit côté un peu flippant.
Oui, y a l'accent. On a un côté très animal en fait dans l'intonation du comédien. On a aussi tous les bruitages qui sont faits avec les loups, etc. On va retrouver aussi le bruit du cliquetis du château, comme tu disais. Donc ça c'est de plein de manières sonores qui permettent de retranscrire ces images et de les adapter pour la radio en fait.
De quelle façon tu travailles ton sujet, ton travail de recherche ? Parce qu'on a la radio, et là, il y aura bientôt, j'imagine, un texte que tu vas commencer à écrire. Comment est-ce que se met en place cette recherche ?
En fait, j'ai travaillé en deux temps, puisque comme je travaille sur les adaptations, c'est important de commencer par le roman. Donc j'ai commencé par analyser les paysages sonores des romans sur lesquels je travaille. Donc Dracula en fait partie, mais il y en a un autre. Et après, j'ai analysé de manière sonore, en fait, donc les adaptations radiophoniques. Et j'ai aussi fait un lien avec le monde de la radio, puisque j'ai eu la chance de m'entretenir avec des adaptateurs, de savoir comment ils travaillaient. J'ai pu assister aux concerts fiction, puisque ce sont des représentations qui sont faites en public, en fait, donc on peut vraiment y assister. J'ai pas pu assister à Dracula, mais aux nouvelles productions qui ont été faites par France Culture. Et j'ai pu aussi assister à un enregistrement d'une des fictions qui a été produite très récemment de Riquet à la Houppe, en studio à France Culture, donc ça m'a permis de voir un petit peu comment on pouvait créer, comment se passait la création radiophonique en coulisses. On va écouter un autre extrait, en fait.
Debout, Mina ! Nous allons à Piccadilly !
«
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel extrait?
Il retranscrit bien, je trouve, le déplacement dans l'espèce de cavalcade que les instruments retranscrivent. Justement, je dirais qu'en lisant le livre, on aurait le même sentiment d'urgence. Et là, c'est peut-être même plus intense en l'écoutant.
Mm-hmm. Moi, j'imagine un carrosse de transport qui part à toute vitesse.
Alors j'aime bien cette image de carrosse, sauf que je trouve, enfin après c'est mon interprétation personnelle, on est quand même dans l'Angleterre victorienne, donc 19e siècle, révolution industrielle, etc. Mmh. Donc je trouve que ce que Didier Benetti, qui est le compositeur de cette musique, a vraiment bien réussi à faire, c'est une sorte de mouvement circulaire qui peut évoquer un petit peu aussi, avec les percussions, le bruit du train en fait. Mmh. Donc c'est vraiment cette idée de déplacement, et en fait on voit ici, enfin on entend ici, que la musique peut en fait prendre le relais du narrateur et venir expliquer à l'auditeur que en fait voilà, les personnages sont en train de se déplacer, d'aller à Piccadilly Circus, etc., qu'ils sont en train de chasser Dracula, que l'intensité est absolument urgente. Mais en tout cas voilà, on a une autre technique de narration qui se met en place à la radio.
Oui, donc pour rebondir sur ce que tu dis, finalement, le style d'un roman va être retranscrit de façon individualisée presque par les instruments. On retrouve finalement, chaque auteur aurait son style sonore, ou pas ?
Chaque auteur, oui, mais là, il ne faut pas oublier... Enfin, si on parle du concert fiction, il y a une double écriture. On va partir de l'écriture de Bram Stoker, qui est... quelqu'un qui avait une sensibilité sonore particulière, puisque quand on étudie le roman, on entend des sons. Mais là, on a aussi la vision de l'adaptateur, puis la vision du réalisateur. Donc on a quand même plusieurs couches qui viennent s'additionner en termes de style sonore.
Style, voilà. Voilà.
Sachant qu'il faut aussi prendre en compte la place de l'auditeur, qui va s'imaginer, se figurer les sons aussi par rapport à sa propre subjectivité.
Oui.
Une recherche particulière, je dirais, beaucoup de sang, beaucoup de...
De son ou de sang ?
De sang et de sang, c'est vrai, ça se retrouve dans cette recherche. Qu'est-ce qui te motive, le sang ou le sang ?
Le son, le son. Même si je mets beaucoup de sang dans ma thèse, et d'énergie. Mais ce qui me motive, c'est cette idée de trouver une autre façon de lire, de proposer de nouveaux formats, de nouvelles façons d'envisager la lecture et la fiction. Et aussi d'envisager en fait, des débouchés pédagogiques, en fait, de la façon dont ça peut servir dans notre rôle d'enseignant-chercheur pour la suite.
Donc du coup, tu disais visée pédagogique, est-ce que du coup, ça pourrait, la radio, hein, ces adaptations sonores pourraient remplacer la lecture pour des jeunes publics ou pour même des publics plus âgés ?
Il y a forcément le débat de la fin de la lecture, la fin du livre, etc., et dans lesquels je ne veux pas rentrer parce que je ne m'y connais pas assez. Mais clairement, ça dépend du format. Grâce à un feuilleton radiophonique, grâce à des concerts fiction, on trouve de nouvelles façons d'aborder la lecture et d'aborder l'imagination et donc la fiction et la façon de lire, en fait.
Donc la traduction de l'anglais au français ? Pourquoi faire ? Qu'est-ce que peut nous aider d'avoir des traductions de ce type dans ton cas ?
Pour moi, là, on a une traduction sonore, en fait, d'un roman. Et c'est une traduction qui va dépasser la simple traduction linguistique. On n'est pas simplement dans la traduction de l'anglais au français. On va aller plus loin, on va dans la retranscription en fait, d'une atmosphère, dans la retranscription de cette Transylvanie avec les loups, de l'accent de Dracula, etc. Et voilà.
Donc il y a traduction sur traduction sur traduction, quelque part.
C'est là qu'il faut se demander si on n'a pas tout simplement une nouvelle création, une réécriture.
Et donc l'intérêt de cette adaptation en français, les adaptations françaises en général dans des œuvres anglaises, tu peux nous dire un peu plus ?
Ça sert, je pense, principalement à faire connaître une partie de la littérature victorienne, donc du 19e siècle anglais, à un public qui peut en être friand. Puisque on a toutes les tendances vampiriques actuelles, les vampires sont à la mode, les morts-vivants, tout ce qu'on veut. Et donc forcément, on a quand même un public qui est réceptif et qui peut découvrir des classiques de la littérature anglaise grâce à ces nouveaux formats et grâce à la radio.
Les vampires sont à la mode.
Bien sûr. On voit avec toutes les tendances vampiriques que c'est quand même quelque chose qui est assez... Le gothique du 19e est assez... populaire, et donc ça permet de continuer à faire découvrir cette littérature.
Vous venez d'entendre Anaïs Martin, Le sang dans le son. Troisième épisode de notre voyage dans la recherche. À suivre, Abdelhakim Zamit, arbitre du droit.
Profession chercheur numéro 6 a été réalisée en mai 2018, en clôture de la formation doctorale sur la communication scientifique. Remerciements à Nicolas Chevassu, Philippe Hert et Jérôme Matteo. Équipe technique, Sébastien Gelli, Djilali Hamish et Anaïs Kabandé.